RFI, Radio France Internationale, 8h30 à Paris et Brazzaville, 9h30 à Boutembo. L'heure du journal de Nemo en Pisse.
Et à la une, ce nouveau témoignage rare ce jeudi sur RFI, celui de l'épouse d'un jeune Camerounais. Parti en Russie l'été dernier, il pensait y trouver du travail, il a finalement terminé sur le front de la guerre en Ukraine. Sa compagne est sans nouvelles de lui depuis des mois. Deux jours de visite d'État en France pour le président angolais João Lourenço. Si la situation dans l'est de la RDC devrait être au cœur des discussions, des accords économiques sont également sur la table entre Paris et Luanda. À 7 mois de la fin de la transition, le général gabonais Brice Oligui Nguema opère de légers changements au sein de son exécutif. De 31, la nouvelle équipe passe à 35 membres, dont 11 femmes. Le premier ministre Raymond Dong Sima reste en poste. Et puis, l'inquiétude des organisations de défense des droits humains autour de la situation de Siam Ben Sedrine, 75 ans, emprisonnée depuis quelques mois en Tunisie. Elle est accusée d'avoir falsifié le rapport de l'instance Vérité et Dignité qu'elle dirigeait. Elle a démarré, il y a 2 jours maintenant, une grève de la faim. Vous avez peut-être entendu, lu hier le témoignage de ce ressortissant camerounais enrôlé par une société paramilitaire russe pour aller combattre sur le front en Ukraine. Il pensait avoir trouvé un emploi de concierge dans un camp militaire, mais une fois sur place, il dit avoir été dupé. Et s'il a témoigné, c'est pour éviter que d'autres suivent ce chemin et pour faire savoir qu'il n'est pas seul à servir de chair à canon pour la Russie. Ils sont africains, asiatiques, latino-américains ou encore proches orientaux, des centaines, peut-être des milliers, difficile de savoir précisément cette trajectoire. Un autre jeune Camerounais en a été victime. Ce jeudi, son épouse prend la parole sur RFI. Elle est sans nouvelles de lui depuis juillet 2024. François Mazet s'est entretenu avec.
S'il est toujours vivant, Franck, un prénom d'emprunt, vient d'avoir 24 ans. Ce géomètre est le pilier de sa famille, selon son épouse. Son père est malade, ses frères en études, c'est lui qui les soutient. C'est pour eux qu'il veut quitter le Cameroun en juin 2024. Il croyait que la Russie serait un pays de transit avant un emploi en Pologne. Mais faute d'argent, à Moscou, on lui fait signer un contrat avec un recruteur russe. Il passe à peine 2 semaines dans un camp militaire, part pour sa première mission dans la région de Donetsk, c'était le 26 juillet. Depuis, Linda, son épouse, est sans nouvelles. Elle implore les autorités de lui venir en aide.
Même s'il est mort, et que si on le retrouve même qu'il est vivant, qu'on le rapatrie au pays, qu'on le rapatrie parce que ses parents souffrent vraiment depuis qu'il n'est plus là. Ses parents ne dorment pas. Sa mère m'appelle chaque jour, elle pleure. Son père, pareil. Et ses frères et sœurs, tout le monde est dépassé. Nous sommes tous inquiets. Vraiment, nous supplions l'autorité camerounaise à faire quelque chose pour nous. Parce que nous ne sommes pas quand même les seuls. Il y a plusieurs familles aussi dans cette situation. Et que s'il y a moyen d'arrêter même les services d'immigration, là, toutes ces personnes qui amènent leurs frères dans la mort, si on peut même mettre main sur ces gens pour les empêcher de continuer à faire du mal.
Linda dénonce les intermédiaires qui prospèrent sur cette situation. De Franck, elle n'a plus qu'une photo sur la place rouge de Moscou et une petite fille de 9 mois.
Un témoignage à retrouver sur la longueur dans Afrique Midi aux alentours de 13h45 heure de Paris. J'ajoute que le gouvernement camerounais sollicité dans le cadre du témoignage diffusé hier par RFI n'a pour le moment pas réagi. La Russie où se trouve depuis hier Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, doit s'entretenir ce jeudi avec son homologue Vladimir Poutine à Moscou. Visite qui intervient après la levée totale de l'embargo sur les armes, mais aussi après la levée des restrictions concernant le secteur du diamant. Les deux dirigeants doivent évoquer l'état et les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, commercial, économique et humanitaire. Tous les domaines, y compris le très sensible sécuritaire, fait savoir le Kremlin. Lui démarre une visite d'État ce jeudi en France. Le président angolais João Lourenço doit être reçu par son homologue Emmanuel Macron, alors que Luanda prendra en février la présidence tournante de l'Union africaine. La visite doit permettre aux deux pays d'aborder les sujets régionaux, notamment la situation dans la région des Grands Lacs et le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi les sujets internationaux. Visite à forte tonalité économique également, avec la conclusion de contrats et de financements dans les domaines de l'eau ou des satellites, alors que Paris cherche à diversifier ses investissements au-delà du pétrole. Plus de détails avec Claire Fage.
La visite de Juan Lorenzo en France devrait être l'occasion d'annoncer un contrat important avec l'entreprise française Suez dans l'assainissement, le traitement des eaux usées en Angola. Un financement doit aussi être conclu avec la banque française Société Générale pour l'achat par l'Angola d'un satellite Airbus d'observation de la Terre qui sera fabriqué à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il s'agit de cartographier les ressources angolaises en pétrole, en minerais, mais aussi en eau pour l'agriculture. En projet également, un contrat de fourniture d'un hôpital ophtalmologique dans la capitale angolaise. La France souhaite accélérer la diversification de ses investissements, archi-dominés par les activités pétrolières. Cela rejoint le désir des autorités de Luanda de diversifier l'économie angolaise. Pour développer l'agriculture, un accord préliminaire devrait être signé avec l'Agence française de développement sur un énorme projet d'irrigation, tandis que la coopération se poursuit pour reconstituer une filière café. Les discussions porteront également sur le corridor jusqu'au port angolais de Lobito, projet d'infrastructure majeure pour acheminer les minerais congolais et zambiens vers l'Atlantique, que la France encourage au même titre que ses partenaires européens et américains.
J'ajoute que demain, le président angolais assistera au forum d'affaires Angola-France qui rassemblera à Paris des entreprises des deux pays au siège du MEDEF, l'organisation patronale française. Et sur la situation dans l'est de la RDC que j'évoquais un peu plus tôt, cet appel des églises protestantes et catholiques, elles sont à l'initiative d'un pacte dit social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les sombres perspectives d'une catastrophe humanitaire aux conséquences incalculables se précisent, lancent les églises dans un communiqué. Au Gabon, la présidence de la transition, le général Brice Oligui Nguema a procédé hier à un très léger remaniement gouvernemental. Raymond Dongsima, premier ministre, garde par exemple son poste et cette nouvelle équipe formée 7 mois avant la fin de la transition, qui sera marquée par des élections générales, fait honneur aux femmes et à la jeunesse. RFI Libreville, Yves-Laurent Goma.
Les ministères de souveraineté restent entre les mains des proches du président de la transition. C'est le cas de la Défense nationale, gérée par le général Brigitte Onkanoa, Régis Onangandiaï aux affaires étrangères, Marcel Abeke au pétrole ou Charles Mba au budget, qui récupère également le service de la dette. Le nouveau gouvernement compte 35 membres, compte 31 dans l'équipe sortante. Il y a 10 nouveaux ministres, parmi eux Marc Ndoumba, nommé ministre de l'économie en remplacement de Smouissi, déplacé à l'environnement. L'opposant Séraphin Davéa-Kouré arrive comme ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement. Une équipe composée de 11 femmes contre 9 auparavant. 6 ministres ne sont pas reconduits. Le principal défi sera d'organiser les prochaines élections qui mettront fin à la transition au plus tard en août prochain. Plusieurs leaders politiques et syndicaux demandent au général Oligui Nguema de ne pas être candidat à la présidentielle. Tous les textes en vigueur lui en donnent le droit.
À Madagascar, les tribunaux administratifs doivent normalement demain, vendredi, dévoiler les résultats définitifs des élections communales. La semaine a été particulièrement chargée au tribunal administratif d'Antananarivo où des audiences publiques ont eu lieu pour entendre les plaidoyers des avocats des candidats ayant engagé des recours en contentieux électoraux. Parmi eux, le candidat à la mairie de la capitale, Tutsu Ravalomanane, donné perdant selon les résultats provisoires de la commission électorale. Face à la candidate du régime Arlal Ramanansou, la requête du fils de l'ancien président malgache dénonçait des irrégularités et des violations de la loi et demandait entre autres l'annulation des voix obtenues par sa concurrente, mais aussi sa disqualification. Mais la requête a été officiellement rejetée hier, sans motif, selon Maître Hubert Raharisson, avocat du candidat Tim.
Refuser notre requête, je ne comprends pas du tout. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons apporté des moyens très sérieux pour prouver les irrégularités et les anomalies lors de cette élection municipale. Des exploits judiciaires, des photos, des témoignages. Je ne sais pas quelles sont les motivations de la décision. Et j'attends voir d'abord la version écrite de la décision pour essayer de comprendre. Ils vont faire la notification cette semaine ou la semaine prochaine, mais nous allons réfléchir sur la suite. Parce que nous avons encore le droit de faire un recours en cassation devant le Conseil d'État. Mais cette décision relève de la compétence du parti.
Maître Hubert Raharisson au micro de notre correspondante à Antananarive, Sarah Teto. 246 survivants remontés de la mine d'or abandonnée de Stilfontein en Afrique du Sud depuis le début de la semaine. Ces mineurs illégaux étaient bloqués à plus de 2 km sous terre depuis des mois. 78 corps sans vie ont également été remontés par les professionnels. L'opération est terminée selon la police, mais une dernière descente doit être effectuée ce jeudi pour s'assurer que plus personne ne se trouve sous terre. L'Afrique du Sud qui applaudit la mise en place d'un accord pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Pretoria était à l'origine d'une procédure auprès de la Cour internationale de justice pour tenter de prouver qu'Israël viole la Convention sur le génocide depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Les autorités sud-africaines demandent à présent que l'aide humanitaire soit rapidement acheminée dans la bande de Gaza et cela sans obstruction. Et puis en Tunisie, elle est emprisonnée depuis l'été dernier et a choisi la date symbolique du 14 janvier, célébrant les 14 ans de la révolution tunisienne pour entamer une grève de la faim illimitée. Siem Ben Sedrine, 75 ans, ancienne présidente de l'instance Vérité et Dignité, elle est accusée d'avoir falsifié le rapport final de l'instance destiné à faire la lumière sur les violations des droits humains pendant les années de dictature. Elle proteste donc contre une incarcération qu'elle estime injuste et arbitraire. Certaines organisations nationales la soutiennent et demandent sa libération. C'est le cas du Comité pour le respect des libertés et des droits en Tunisie. Son président, Mouyedine Cherbib.
Madame Ben Sedrine, qui est connue même avant la révolution en tant que militante contre la dictature de Ben Ali, c'était un symbole de la lutte contre la dictature. Elle a eu cette responsabilité importante pour la justice transitionnelle dans le cadre de cette instance. On lui a cherché des poux par tous les moyens et depuis août dernier, elle est incarcérée pour des raisons que personne ne connaît. Madame Siem Ben Sedrine ne supporte plus cette situation. C'est pour cela qu'elle met sa vie en danger en se mettant en grève de la faim. Nous, en tant que comité pour le respect des libertés et droits de l'homme en Tunisie, on exige sa libération immédiate parce que aucune charge n'est valable pour Madame Ben Sedrine pour qu'elle soit en prison. Sa détention est une détention politique et on tient responsable le président de la République, Kais Saied, de toute dégradation et tout préjudice contre la santé de Madame Siem Ben Sedrine.
Mouyedine Cherbib avec Ouda Ibrahim. Tout de suite, vous retrouvez André Anne Mellard.